E-Radio, l'invité de la rédaction.
Christiane Lambert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Et depuis 2020, vous êtes présidente de la COPA, la principale organisation européenne des agriculteurs. Vous êtes d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, la FNSEA plaide pour une Europe agricole plus harmonisée et solidaire. Quelles sont vos préconisations pour y arriver ?
Nous faisons le constat depuis un certain nombre d'années qu'il y a des règles d'application assez différentes d'un pays à l'autre et des politiques assez différentes d'un pays à l'autre. Nous souhaitons, nous, qu'il y ait des règles homogènes. Nous sommes sur un marché unique et nous devons le plus possible avoir des règles harmonisées, des conditions de production dans les différents pays. Par exemple, sur le sujet des produits phytosanitaires, la France, très souvent, interdit un certain nombre de produits de traitement des cultures qui sont autorisés ailleurs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des bases harmonisées le plus possible, notamment sur les normes sanitaires de bien-être animal ou environnemental.
Un exemple de produit qui serait autorisé plus précisément, en fait, qui serait autorisé dans un pays, pas dans un autre.
Par exemple, l'année dernière, la France a interdit le dichloropropène, qui est utilisé pour le traitement des carottes. Il est utilisé dans d'autres pays. Donc la France a arrêté de l'utiliser et d'autres pays continuent à l'utiliser. Et ça, ce ne peut pas être accepté de la même façon. La mise en place de la directive nitrate et l'ensemble de ses obligations en plafonnement d'épandage par hectare, en distance à respecter par rapport au cours d'eau, n'est pas appliquée partout de la même façon. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup poussé que les plans stratégiques nationaux de la future PAC soient vraiment harmonisés le plus possible et validés et par la Commission et par les ministres de l'Agriculture.
Alors justement, sur cette PAC, les institutions européennes, donc les États, se sont mis d'accord. Elle va entrer en vigueur en 2023. Cette PAC, qu'est-ce qu'elle fixe déjà pour nous resituer le cadre et qu'est-ce qu'elle va apporter et changer par rapport à la précédente ?
Alors déjà, la première chose, c'est que dans la proposition initiale, le budget baissait de 15%, ce qui aurait été une catastrophe au moment où l'alimentation apparaît comme essentielle, notamment depuis le Covid, la capacité pour l'Europe à nourrir ses populations. Grâce au plan de relance européen, ce n'est qu'une baisse de 2% que nous avons sur la politique agricole commune, parce que la capacité à produire l'alimentation est apparue capitale. La deuxième chose, c'est une PAC qui reste une PAC économique et qui soutient la production en soutenant les agriculteurs, mais c'est une PAC qui vit avec son temps et qui donc verdit et qui encourage les agriculteurs à avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, avec 25% des aides aux agriculteurs qui sont désormais encore plus conditionnées au respect de règles environnementales. Donc elle est plus juste, plus accompagnant la production et plus verte, ce qui correspond aux besoins du moment, souveraineté alimentaire, transition écologique et lutte contre le changement climatique.
L'UE s'est fixé pour objectif de passer donc à 25% d'exploitation bio à 2030. Est-ce que c'est un objectif réaliste et est-ce que la PAC aide réellement le bio ?
Alors, l'objectif qui a été fixé par la stratégie Farm to Fork qui est dans le pacte vert, c'est effectivement 25% de surface en bio, ce qui inquiète un certain nombre d'acteurs économiques parce que aujourd'hui déjà, le savez-vous peut-être, il y a une impasse sur la production bio, les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Nous avons en France 25% du lait produit en agriculture biologique qui ne trouve pas de débouchés. C'est 15% des œufs qui sont produits en bio qui ne trouvent pas débouchés, ce qui met les producteurs dans de très graves situations économiques. Donc il faut que les consommateurs qui commandent du bio achètent du bio, malheureusement ils ne sont pas au rendez-vous. Donc ce qui doit diriger le pourcentage de surface en bio, c'est le marché, la capacité des consommateurs à absorber ce qui est demandé, sinon on va faire du gâchis et puis les produits ne seront pas achetés. Donc le 25% nous paraît difficile à atteindre dans le calendrier qui a été donné. La France s'est fixé un objectif de 18%, ce qui est déjà ambitieux parce que nous sommes aujourd'hui à 12% avec certaines impasses. Et dans la PAC nouvelle, c'est plus 35% pour les aides à la conversion en agriculture biologique. Donc que les agriculteurs se convertissent, c'est bien, mais que les consommateurs se convertissent aussi à l'achat de plus de produits bio, c'est indispensable pour que ça tienne dans le temps.
On a quand même un peu l'impression, ou en tous les cas l'idée, que la politique agricole commune vient plutôt en aide aux grosses exploitations. C'est vrai ou c'est faux ?
Avant, et dans certains pays, il y avait, c'est vrai, 80% des aides qui allaient à 20% des agriculteurs. En France, 80% des aides vont à 54% des agriculteurs. Donc on a un rapport beaucoup plus équilibré, parce qu'on a des exploitations moins dimensionnées, que les grandes exploitations de l'Est, qui sont les anciens kolkhozes. Donc il faut bien parler des aides par rapport à la France, je pense. Nous avons depuis un certain nombre de dispositifs qui aident plus les exploitations sur les 52 premiers hectares, des dispositifs qui reconnaissent tous les actifs, c'est ce qu'on appelle la transparence des GEC, des groupements d'agriculture en commun. Et puis, il y a pour les exploitants jeunes agriculteurs une politique particulière d'accompagnement des jeunes agriculteurs. C'est vrai que le choix qui avait été fait par l'Europe, c'était des aides à l'hectare. C'est pour ça qu'il y a eu quelques correctifs qui ont été apportés. Et il y a une réflexion pour du plafonnement, mais qui trouve une difficulté dans la mise en œuvre.
On parle souvent du pouvoir des lobbies autour de la PAC. Est-ce qu'ils sont aussi forts qu'on le dit ?
Vous savez, Bruxelles est le pays des lobbies. Il y a des immeubles entiers de lobbies environnementaux hein, qui ne sont pas comme moi, agriculteurs dans un département, président national, président européen et représentant les intérêts agricoles. Ce sont des salariés à plein temps qui vivent et qui habitent à Bruxelles, qui sont omniprésents dans les couloirs de la Commission. Et c'est vrai que toute politique, quand elle est décidée, fait l'objet d'informations de la part des différentes parties prenantes, c'est ce qu'on appelle le lobbying, et chacun défend sa vision des choses. Et c'est aux politiques de décider dans le meilleur équilibre qu'ils pensent le plus approprié pour conjuguer pour la PAC la production alimentaire, les transitions écologiques, parce qu'il faut verdir nos pratiques et verdir la politique agricole commune et la lutte contre le changement climatique, où l'agriculture apparaît de plus en plus comme une solution, y compris d'ailleurs de la part des ONG, lorsqu'elles sont constructives et qu'elles regardent tous les apports de l'agriculture.
Vous affirmez ici une volonté que les agriculteurs puissent vivre de leurs revenus et qu'ils soient donc aussi plus verts dans leur culture et notamment dans les produits utilisés. On a l'impression parfois que ces décisions a priori souhaitées ont beaucoup de mal à être prises et appliquées.
Les associations environnementales poussent, et c'est normal, c'est leur raison d'être, hein, pour que les politiques soient plus vertes. Mais une chose est de le dire, autre chose est de le faire. Qui le fait ? Les agriculteurs. Donc il est normal que les agriculteurs soient eux aussi écoutés pour ce qui concerne l'évolution et le verdissement des pratiques, parce que ce sont eux qui ont à le mettre en œuvre concrètement sur le terrain. Et quelle autre profession aujourd'hui se voit confisquer 25% de ses soutiens et donc de ses revenus en disant « vous devez verdir plus, sinon vous ne touchez pas vos soutiens ». Aucune autre. Aucune autre profession que les agriculteurs. Et par exemple, on a baissé en France l'utilisation des antibiotiques de 42% en 5 ans. Ça a été fait et personne n'en parle. La France est le 9e pays utilisateur de produits phyto, alors que souvent certains disent qu'on travaille très très mal en France. Nous sommes un des rares pays où a été mis en place un plan de réduction des phyto qui nous conduit à avoir réduit de 15% sur les deux dernières années l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc à nous de dire qu'est-ce qu'on fait avec les résultats concrets validés par l'administration. Ce sont des sources ministère de l'écologie et de l'agriculture que je vous cite. Mais nous devons être plus bavards sur ce que nous faisons bien, parce que plein d'autres parlent de ce qu'on fait mal. Donc à nous de parler davantage des chiffres que nous obtenons. On a réduit de 10% les gaz à effet de serre en l'espace de 15 ans de l'agriculture. Donc ce sont énormément de progrès qui sont faits par le secteur agricole.
Je l'ai dit au début, vous êtes présidente de la COPA, donc qui est la principale organisation européenne d'agriculteurs. Est-ce que parfois vous ne vous retrouvez pas un petit peu en conflit entre des intérêts français et puis des intérêts de voisins et d'agriculteurs voisins ?
Bien sûr qu'il y a de la concurrence entre les pays pour la vente de certains produits. Le rôle de la présidente du COPA, c'est de veiller à ce qu'il y ait le plus possible d'évolution des politiques pour harmoniser, que nous ayons tous les mêmes règles du jeu. Nous savons que certains pays ont plus de soleil que d'autres, que certains pays ont des coûts sociaux inférieurs. Tous les pays n'ont pas un SMIC à hauteur de ce qu'est la France, des cotisations sociales à hauteur de ce qu'est la France. Nous connaissons ces différences. Voilà pourquoi nous sommes exigeants pour que tout ce qui puisse être harmonisé le soit. La France a mis comme priorité de sa présidence, parce que nous le poussons, les mêmes règles d'utilisation des produits phytosanitaires pour tous les pays. C'est la directive SUD, Sustainable Use Directive, d'utilisation durable des pesticides, parce que à trop interdire en France et pas ailleurs, la France perd des productions. Nous importons aujourd'hui 60% de nos fruits, parce que le coût de la main-d'œuvre est plus cher, les charges sociales aussi, et parce que nous nous privons de certains produits de traitement de fruits, là où d'autres les autorisent. Voilà pourquoi moi je suis une ardente défenseuse de l'harmonisation européenne dans le maximum de domaines.
Mais qui va évidemment prendre du temps. Vous comptez sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de cette présidence française, plus concrètement ?
La présidence française a fixé un certain nombre de priorités, dont certaines que nous avons vraiment poussées. L'harmonisation des règles dans la PAC, mais aussi de toutes les directives qui existent. La réciprocité des règles aux frontières, c'est-à-dire que nous puissions commercer avec les pays du monde, oui bien sûr, mais qu'on puisse avoir des règles aux frontières pour que les produits qui ne respectent pas, par exemple, les limites maximales de résidus de produits pesticides ne puissent pas rentrer sur le territoire. Quand on interdit en France et en Europe des produits phyto, il ne faut pas que des pays qui ont produit leurs fruits ou leurs légumes ou leurs cultures avec ces phytos-là puissent pénétrer sans aucune règle sur notre territoire. Et puis le troisième point, c'est qu'on puisse produire beaucoup plus de protéines. Nous sommes malheureusement en Europe dépendants d'importations de soja d'Amérique du Sud et d'Amérique, qui sont des pays où il y a aussi des règles de production extrêmement différentes des nôtres. Donc nous voulons développer des protéines locales qui ne sont pas issues de la déforestation. Ça suppose d'accompagner techniquement les agriculteurs pour qu'on ait plus de colza, plus de tournesol, plus de protéagineux, plus de lentilles, plus de pois de toutes sortes.
Merci Christiane Lambert. Je rappelle que vous êtes présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et depuis 2020, présidente de la COPA, la principale organisation européenne d'agriculteurs.
Je vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction de Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.
On vous parle beaucoup de...